Ça marche? Non? 1, 2, 1, 2, je suis en vert, ouais. Bon, je vais prendre un autre micro. C'est bon? Ah, d'accord. Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ouais? J'espère que vous avez profité de vos temps d'été, vos vacances d'été. Alors, cela ne vous aura pas échappé. On est en pleine période de rentrée. Et pour certains, les vacances paraissent déjà loin derrière, peut-être. Et pour ma part, je n'irai pas jusqu'à dire que cette période, je l'apprécie particulièrement. Ça serait aller trop loin quand même. Hein. Mais j'aime toute cette ébullition, toute cette énergie qui accompagne cette période de rentrée. C'est pour nous l'occasion de penser et de structurer nos activités pour l'année à venir. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Et je vous invite à lire, à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 13 à 25. 1 Pierre 1, 13 à 25. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Je vous invite à prier avant de commencer. Père, merci parce que tu nous donnes cette parole. Merci parce que cette parole, elle nous guide et elle nous montre comment nous devons vivre devant toi. Et c'est vrai que, alors que nous avons du mal à mourir à nous-mêmes, alors que nous avons du mal à discerner le superflu de l'essentiel, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin que tu agisses en nous pour nous montrer ce qui est capital, ce qui est central dans nos vies. Nous avons besoin que tu fasses résonner ta parole dans nos cœurs, cette parole qui est vivante, cette parole qui régénère et cette parole qui demeure éternellement. Amen. Alors, traditionnellement, on prend nos bonnes résolutions au mois de janvier, en début d'année. Mais dans les faits, dans la pratique, j'ai l'impression qu'on les prend souvent plutôt à la fin de l'été ou durant ces périodes de rentrée. Nous prenons de nouvelles résolutions et nous déterminons la feuille de route qui va être la nôtre pour ces prochains mois. Nous réalisons des choix en fonction des contraintes qui sont les nôtres, des contraintes qui sont liées aux activités des enfants, à leur scolarité, à nos obligations professionnelles, à peut-être des contraintes de santé, des contraintes financières, mais aussi en tenant compte de ce que nous avons envie de vivre. Passer plus de temps en famille, se remettre au sport, une belle occasion avec vous les gars, merci. Lire davantage, chacun à sa propre liste. Nous sommes en période de rentrée, nos activités reprennent après une période de vacances. Et pour bon nombre d'entre nous, l'année s'annonce déjà, elle commence déjà sur des chapeaux de roue. Et c'est certain, nous allons courir après le temps. Et oui, le temps est un facteur important dans le choix de nos priorités. Mais il n'est pas un élément essentiel. Justement, la Bible nous rappelle que notre temps sur Terre est limité. Et elle nous montre ce à quoi nous devons consacrer nos vies. Elle nous rappelle quelle est notre place dans le monde et ce qui doit être prioritaire dans nos vies. Alors dans cette période où nous fixons nos emplois du temps pour l'année à venir, où nous établissons nos feuilles de route, il est important que nous nous rappelions ce à quoi Dieu nous appelle. Quels sont les principes sur lesquels il souhaite que nos feuilles de route soient construites, que nos conduites soient construites? Alors, je vais commencer par présenter rapidement le contexte de rédaction de ce premier épître de Pierre. Pierre s'adresse à des chrétiens d'origine non juive, à des chrétiens d'anciens païens qui sont confrontés à la souffrance. Et la souffrance dont il est question, ce n'est pas une souffrance de la vie ordinaire. Il ne s'agit pas de maladie, il ne s'agit pas de mort ou de pauvreté, mais de persécution. Et la majorité des exégètes contemporains s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas d'une persécution orchestrée par le pouvoir romain, mais d'une pression, d'une discrimination qui est faite par une population qui refuse la manière de vivre des chrétiens. Et c'est dans ce contexte d'hostilité que Pierre va chercher à encourager ces églises, dont les membres sont en tension avec leur culture d'origine. Et c'est dans ce contexte que Pierre va rédiger ce qu'un commentateur considère comme un résumé de la foi chrétienne et de la conduite qu'elle inspire. Ce mot « conduite », il apparaît à plusieurs reprises dans l'Épître. C'est un mot clé, un mot pivot de l'Épître. Et on pourrait le traduire par « correctement marcher ». En fait, il s'agit de la manière de vivre qui convient à ceux qui se réclament de Christ, à ceux qui appartiennent à Christ. Alors, cela ne saute pas aux yeux dans le passage que l'on vient de lire. Mais Pierre fonde son exhortation, sa description de la conduite chrétienne sur l'identité chrétienne, et plus précisément sur l'identité de l'Église. Nous avons vu que les destinataires à qui Pierre s'adresse sont des chrétiens d'origine non juive. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que Pierre s'adresse à eux en appliquant des termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour désigner Israël. Dans notre passage au verset 16, on peut lire « Vous serez saints car je suis saint ». Ce passage y renvoie à de nombreux passages dans Lévitique où le peuple de Dieu est exhorté à marcher dans la sainteté et pour se dépouiller des transgressions de la sainteté, on a justement ces sacrifices de bouc dont on a parlé. Mais ce verset aussi, il renvoie au moment où Dieu conclut une alliance avec son peuple, au moment où Dieu fait d'Israël son peuple sur le mont Sinaï. On trouve ce passage dans Exode, et ce passage nous dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Un peu plus loin dans l'Épître de Pierre, au chapitre 2, on peut lire des paroles beaucoup plus explicites, où je rappelle que Pierre s'adresse à des pagano-chrétiens, des chrétiens d'origine non-juive. Et il s'adresse à eux en ces termes. « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. » Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Pierre, en utilisant ces notions qui étaient réservées à Israël dans l'Ancien Testament, pour qualifier l'Église, pour l'appliquer à l'Église, rappelle à ces chrétiens d'origine païenne qui sont persécutés dans leur culture d'origine qu'en Jésus-Christ, ils font partie du peuple de Dieu. De la sorte, grâce à l'œuvre du Christ, l'Église est élevée au rang de peuple élu. L'Église est ce peuple saint. Et ceci n'est pas sans implication pour l'Église. Tout comme Israël était appelé à se distinguer des nations qui l'environnaient, l'Église est elle aussi appelée à adopter une manière de vivre qui se distingue de la société dans laquelle elle évolue. Et ce n'est pas une différence à rechercher pour elle-même, mais c'est une différence qui s'opère en obéissant à Dieu. En qualifiant ces croyants d'origine non juive aux membres du peuple de Dieu, Pierre les associe à une histoire. Et il leur permet d'aller au-delà d'un sentiment de déracinement, d'un sentiment d'isolement vis-à-vis de la culture de laquelle ils sont issus. Mais aussi, il leur permet de comprendre quelles doivent être les relations qu'ils doivent entretenir avec cette culture. Alors en ce qui nous concerne, sans parler de persécution, nous sommes dans une période où le christianisme est de plus en plus décrié. On parle d'effondrement moral, de déchristianisation de l'Occident. Il est important pour nous de connaître notre identité de peuple de Dieu. Il est important aussi pour nous de connaître son histoire, cette histoire qui devient la nôtre aujourd'hui. Cette identité de l'Église, de peuple de Dieu, implique des applications pratiques pour nous chrétiens. En tant que membres de ce peuple, les croyants sont appelés à suivre ce code de conduite qui convient aux partenaires de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Et au cœur de cette alliance se trouve l'exigence de sainteté. Dieu appelle son peuple à être saint parce que Dieu est saint. C'est ce qu'on retrouve au verset 15. « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Pour ma part, j'ai longtemps mal compris ce principe de sainteté. J'y associais une idée pesante de religiosité, une idée d'une attente de perfection morale. Et pour moi, la personne sainte était un petit peu une personne qui était incapable de voir la réalité du mal dans le monde, incapable de se salir les mains aussi. Vous savez, c'était ce rabat-joie moralisateur avec une énorme auréole au-dessus de la tête. Alors, rien de surprenant, les chrétiens sont habitués à être caricaturés de cette manière. Mais la Bible présente la sainteté d'une manière bien préférable, bien plus enthousiasmante. Le mot hébreu traduit par sainteté signifie « séparé ». Être saint, c'est être mis à part, c'est être mis à l'écart de toute souillure, de tout péché et de son influence. Être saint, c'est être consacré à Dieu. Et cet appel à la sainteté, on le voit, il découle de l'élection. Dieu a choisi un peuple, il l'a sauvé et il l'a choisi pour le représenter parmi les nations. Ce peuple est saint parce que son Dieu est saint. Pour reprendre les paroles de Paul dans 1 Thessaloniciens, je dirais, ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Ensuite, Pierre, en soulignant l'identité de l'Église comme peuple de Dieu, comme peuple saint, donc mis à part, conduit les chrétiens d'Asie mineure à reconsidérer la manière dont ils comprennent leur place dans la société. Paul utilisera plus tard dans l'Épître le terme de « voyageur » et d'étranger. D'étranger, plus précisément, traduit par établi provisoirement dans le pays. En fin de compte, il leur stipule que bien qu'originaire et vivant en Asie mineure, ce n'est pas là que se situe leur identité. Et il les encourage à ne pas adopter les coutumes et le mode de vie de leurs contemporains. Alors, évidemment, il n'est pas question de culture gastronomique, vestimentaire, de danse folklorique ou de corrida. Hein. Ce que Pierre nous dit, c'est que la manière de vivre et le comportement des chrétiens ne sont pas ceux de la société dans laquelle ils vivent. Ils ne sont des voyageurs qu'en séjour sur cette terre. Leur différence se situe en ce qu'ils obéissent à Dieu. Alors, durant cette période où nous effectuons des choix pour l'année à venir, inévitablement, nous le savons, nous sommes imprégnés des valeurs de la société dans laquelle nous vivons. Il me semble que c'est important pour nous de nous laisser interpeller par ces recommandations que Pierre adresse aux chrétiens d'Asie mineure. Notre feuille de route, nos projets pour cette année, nos priorités, sont-ils ceux qui sont déterminés par notre culture ou sont-ils ceux de voyageurs loin de chez eux qui vivent en conformité avec leur identité de peuple de Dieu? La sainteté, souvent, on la restreint à un aspect purement moral qui concernerait les passions, les convoitises et les vices. Mais non, la sainteté, elle concerne l'ensemble des aspects de la vie qui doivent représenter, qui doivent caractériser la conduite du peuple de Dieu. Alors, il y a quelques semaines, je pense que si vous avez suivi l'actualité, vous ne serez pas passé à côté de ça. C'était aussi la rentrée du gouvernement. Et le président a fait cette annonce qui a fait le buzz. Il a annoncé un grand bouleversement avec la fin de l'abondance et de l'insouciance. Sans entrer dans des considérations politiques et économiques, la question est de savoir, est-ce que les préoccupations premières qui vont être les miennes, les nôtres cette année, est-ce que notre manière de vivre vont être définies sur les fondements d'une culture qui est profondément matérialiste, qui place sur un piédestal la réussite matérielle, le bien-être et la sécurité? Est-ce que nous conformons nos désirs à ce que nous avions autrefois, ou nos objectifs et nos priorités sont-ils les siennes? Alors évidemment, il n'est pas question de nier ni la difficulté ni la souffrance, mais de regarder avec lucidité, en étant conscient de la responsabilité qui est la nôtre en tant que peuple de Dieu. Lorsqu'on regarde cet épître, le contexte de souffrance et le poids que la persécution, que la société fait peser sur les chrétiens d'Asie mineure, nous soulignent que cette exigence de sainteté n'est pas une option. Ce n'est pas une option à laquelle l'Église pourrait déroger. Ce que l'on constate, c'est que malgré la souffrance, l'ambiance qui se dégage de cet épître n'est ni lourd, ni doloriste, ni fataliste, mais au contraire, il est stimulant, il est fortifiant. Il présente la sainteté comme une joie lucide, mais aussi comme un privilège plein de promesses. Alors nous venons de voir que l'Église était le peuple de Dieu, le peuple mis à part par Dieu. Et nous allons voir maintenant qu'elle est aussi le peuple de Jésus-Christ, le peuple qui est appelé à vivre comme Jésus-Christ. Le texte nous montre qu'on ne peut séparer le Christ de Dieu, et il nous parle d'une espérance qui réside en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, ce salut, seront pleinement manifestés lors de son retour. On l'a vu ce matin, Christ reviendra, on l'a vu au moment de la Sainte Cène. En attendant, cela implique que l'Église vive en obéissance à Christ, qu'elle vive à la ressemblance de son Sauveur, de son Maître et de son Seigneur. Et cette demande de vivre comme Christ, elle s'explique d'une part parce qu'il est appelé à être notre exemple. Ce que l'on voit continuellement dans les Écritures, c'est que Dieu appelle ses adorateurs à être ses imitateurs. On le voit par exemple dans Matthieu 5, qui nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et cet appel à imiter Christ, il réside aussi dans le fait que la finalité du salut que nous avons en Christ, c'est que nous devenions saints comme lui. C'est ce que nous dit Tite au verset 4, lorsqu'il dit « Il s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peuple particulier et zélé pour de bonnes œuvres. » Ensuite, Pierre nous dit que la puissance de l'œuvre de Christ ne se résume pas au fait que l'on soit sauvé de la mort, qui est la conséquence de notre péché, mais qui nous affranchit dès maintenant de cette manière de vivre que nous avions héritée de nos pères, de cette vaine manière de vivre. Il nous rend dès maintenant saints et capables de le représenter dans le monde. Je cite un prédicateur anglais du 19e, Ryle, qui nous dit « Nous devons être sanctifiés parce que c'est la seule preuve évidente que nous avons la foi qui sauve en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors nous le savons, ce n'est pas nos bonnes actions, ce n'est pas notre conduite qui nous rachète du péché, ni de la mort. Pour autant, la Bible nous dit que cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu parce que cela découle d'une foi sincère, d'une foi véritable. L'épître de Jacques nous dira aussi que la foi qui sauve, donc la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, est rendue visible par de bonnes œuvres. En fin de compte, une conduite qui plaît à Dieu met en évidence et démontre la foi que nous avons en Dieu. Une chose intéressante aussi dans ce passage, c'est que les exigences de la vie chrétienne, telles que Pierre les formule, ne sont pas formulées comme des impératifs moraux qui s'imposeraient au peuple, des exigences de performance morale qui les laisseraient démunis face à leur seule volonté, face à leur seule force en fin de compte. Non, son exhortation, elle s'inscrit dans la grâce que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre s'adresse à des hommes qu'il qualifie, avant ses préconisations éthiques, qu'il qualifie d'élus de Dieu. Il les qualifie de nés de nouveau et de gardés pour le salut. En fin de compte, Pierre n'écrase pas les croyants par des commandements, mais il souligne d'abord ce que Christ a fait pour eux. Et cela n'implique pas que Dieu agisse uniquement à la place de l'homme et pour lui, mais qu'il fait avec lui et qu'il l'associe à son œuvre. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Et cet appel à la sainteté implique notre collaboration et nos efforts. Il implique que nous fassions violence, que nous sortions de notre négligence parfois, et que nous appliquions à cette sainteté. Et ces efforts, ils ne découlent pas de notre simple volonté, de nos forces, mais de la grâce que nous trouvons en Jésus-Christ. Et lorsque nous transgressons, lorsque nous n'arrivons pas à être saints, contrairement au peuple de l'ancienne alliance qui devait sacrifier des animaux pour effacer ses fautes et pour être à nouveau sanctifié et purifié, nous avons le sang de Christ. Le sang de Christ qui nous permet de marcher dans la sainteté. Nous qui croyons, nous sommes sauvés par Christ. Nous avons reçu son esprit, un esprit qui nous conduit dans cette marche de sanctification. Un esprit qui nous transforme peu à peu, progressivement, à l'image de Jésus-Christ et qui nous pousse à vivre une vie qui lui plaise, qui lui soit agréable. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification et il fait le nécessaire pour cela. Le verset 22 nous indique que cette sanctification passe par l'accueil de la vérité. Cet appel de la vérité correspond à l'acceptation et à la soumission à la parole et au message de la bonne nouvelle. Et tout cela produit la purification de nos âmes en vue d'un amour fraternel sincère. Je relis ce passage. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Le résultat de cette sanctification est un amour authentique entre les membres de ce peuple. Et Pierre, on le voit au sein de cet épître, il ne cesse d'insister sur la qualité qui doit caractériser les relations qui sont pratiquées au sein des membres de ce peuple, au sein des membres de l'Église. Cet amour, ce n'est pas du cinéma. Il ne cible pas des relations de convenance, mais il vise un niveau de relation qualifié par un amour élevé et intense. Pierre utilise deux mots pour désigner cet amour, deux mots différents. En grec, l'amour fraternel qui est mentionné dans la première partie du verset se traduit par affection fraternelle. Il cible des liens affectifs, des liens de solidarité et le partage d'intérêts et de causes communes. C'est ce mot qui était utilisé pour désigner les relations qu'on pouvait trouver dans une famille. Ensuite, le mot qui est utilisé dans l'ordre « aimez-vous » renvoie à un amour qui caractérise notre relation avec Dieu et aussi l'amour que nous devons avoir avec les autres hommes. Les mots de Pierre sont sans détour. Ils sont directifs et ils appellent à une mise en application rapide. Et ils nous indiquent que l'amour, le niveau d'amour qui doit qualifier les relations au sein de l'Église, ne peut être construit sur nos seuls sentiments. Pierre nous encourage, là aussi, à engager notre volonté, nos efforts dans la construction de ces relations. Pierre parle d'un cœur pur, de s'aimer d'un cœur pur. Dans la Bible, le cœur, ce n'est pas simplement le centre de l'émotion, mais c'est le centre de la personne, de sa pensée, de sa volonté. Ça implique une décision et une volonté de notre part. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pierre reste très lucide quant à notre capacité à établir de telles relations. Il nous précise que cela n'est rendu possible que par une nouvelle naissance, cette action mystérieuse par laquelle Dieu nous communique une nouvelle vie spirituelle. Alors, oui, nous sommes en période de rentrée scolaire, mais aussi de rentrée d'église, le week-end du 16, 17, 18. Une façon de répondre à cet appel est de développer un haut niveau d'amour dans nos relations peut se faire en participant aux différentes activités de l'Église. Les enfants, la louange, l'école, la suite au week-end de rentrée, mais aussi en veillant à la qualité des relations que nous entretenons les uns envers les autres. Passons-nous des appels la semaine, pas pour organiser la prochaine réunion, mais simplement pour échanger. Invitons-nous un repas, un café, un verre après le boulot. Continuons à faire du sport ensemble. Rendons-nous des services. L'amour dont il est parlé est un amour qui est missionnel. Il est prioritaire. Rappelez-vous aussi, on est en période de bonnes résolutions. Et pourquoi pas prendre cette année la bonne résolution de, je ne sais pas moi, inviter une famille de l'église une fois par trimestre? C'est faisable, c'est un bon début. Passer un coup de téléphone par mois, faisable aussi. Et dans cette démarche, ne nous appuyons pas sur notre seule capacité à aimer. Ne nous appuyons pas sur nos seuls sentiments, sur notre seul élan du cœur. Mais sur Christ qui s'est sanctifié lui-même pour nous, par amour, et qui met en nous son esprit et qui nous rend capables, à notre tour, d'aimer comme lui nous a aimés. Alors ce passage que l'on vient de lire, et plus largement le premier épître de Pierre, pourrait donner l'image d'une église qui est recentrée sur elle-même. Un appel à la sainteté, un appel à entretenir des relations privilégiées entre les membres de ce peuple. Ça fait presque sectaire quand on y regarde. Mais lorsque l'on prend en compte le contexte de persécution, l'Église apparaît au contraire comme une communauté ouverte, comme une communauté consciente de ses responsabilités envers l'extérieur. D'abord, cet appel à la sainteté, à mener une conduite qui plaise à Dieu, apparaît comme un témoignage. L'idée qu'il y a là-dessous, c'est que le comportement et la manière de vivre des chrétiens doit interpeller les non-croyants et les amener à découvrir celui qui se trouve à la source de cette sainteté. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de persécution où les chrétiens ne peuvent pas parler librement de la foi qui est la leur. Alors, ils doivent le démontrer en action. Et si les chrétiens sont appelés à concevoir leur rapport avec la société comme des étrangers, membres d'un peuple, d'un autre peuple, ce n'est pas sans la perspective du témoignage. Ensuite, l'amour qui doit caractériser ce peuple de Dieu, les relations qui sont pratiquées au sein de ce peuple, invite les croyants à se bénir les uns les autres, mais aussi à bénir les non-croyants. Il s'inscrit un peu dans la même lignée, vous savez, de ce passage dans Jean qui dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qui verront que vous êtes mes disciples. L'amour qui est demandé est un amour missionnel. L'amour auquel Pierre fait référence ne doit pas non plus, lui, être compris sans la perspective du témoignage. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne vivons pas dans un contexte de persécution. Nous pouvons parler, présenter, proclamer notre foi, mais pour autant, notre manière de vivre, notre comportement doit démontrer notre appartenance à ce peuple et aux promesses qui lui sont associées. Enfin, Pierre nous rappelle que la volonté de Dieu, que seule la volonté de Dieu dure éternellement. Il nous dit, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Tout ce que nous ferons disparaîtra. Ce n'est que du vent. Ce qui restera, c'est la parole de Dieu, c'est son œuvre. Alors si tout est appelé à disparaître dans ce monde, ne nous attachons pas aux choses éphémères, mais utilisons plutôt notre temps aux choses qui durent éternellement. Utilisons notre temps, notre énergie, nos finances, nos vies tout entières pour ces choses qui demeurent, la parole de Dieu et le salut que nous avons reçu en Christ. Je vais conclure en une phrase. En tant que chrétiens, nous sommes membres du peuple de Dieu. Nous sommes membres du peuple du Dieu saint. Nous sommes, nous aussi, appelés à être saints. Nous sommes étrangers dans le monde. Notre identité, elle est ailleurs. Et cette identité, elle détermine notre manière de vivre. Une vie d'obéissance à Christ, une vie qui prend Christ pour modèle. Une vie dans laquelle les chrétiens sont appelés, dans laquelle les chrétiens s'emploient à développer des relations d'amour véritables au sein de l'Église et à témoigner au monde de l'espérance qui est en eux. Amen.